je vais vous parler de la médecine pénitentiaire à la médecine en milieu pénitentiaire. Juste préciser que la prison n'est pas un lieu de soins. Donc, c'est quelque chose sur lequel on se bat sur le plan éthique. C'est un lieu où on soigne, mais en aucun cas, la prison doit devenir, comme le voudrait le gouvernement, un lieu de soins. Alors, c'est vrai qu'en France, la loi de 1994 a profondément modifié les modalités de soins au milieu carcéral. Ça a été une première en Europe, voire une première mondiale. Il s'agit d'une part du transfert de la prise en charge sanitaire des détenus du ministère de la Justice ou de l'Intérieur dans certains pays vers le ministère de la Santé. Et d'autre part, de la gratuité des soins pour tous les détenus, avec comme corollaire, on l'a précisé tout à l'heure, l'équivalence de soins par rapport à l'extérieur. Donc voilà notre départ. La mission de ces structures médicales ne se limite pas uniquement à la dispensation de soins, mais bien inclut également une véritable mission de santé publique avec prévention, éducation à la santé, préparation à la sortie. Elles permettent dès lors une meilleure réinsertion sanitaire, bien sûr, et ceci a amené à la création des UCSA, des unités de consultation et de soins ambulatoires, qui sont rattachées au service public hospitalier. Juste un petit rappel que jusqu'en 1994, les soins aux personnes détenues ont été d'abord une intervention des volontés humanistes, Saint-Vincent de Paul, Secours catholique, voilà, c'était à qui veut venir soigner. Ensuite, il y a eu des médecins payés par l'administration pénitentiaire, donc c'était des fonctionnaires du ministère de la Justice qui soignaient les personnes détenues. Il y a eu en 1990 le plan 13000, donc on a vu naître les premiers services de soins privés, voilà, qui ont été, on va dire, le début de la réforme 94. Alors, que dit cette loi? Alors, pourquoi elle devenait urgente? Elle devenait urgente, d'abord pour la médecine. Il fallait réformer une médecine malade. Et le pari de la profession médicale était alors de regagner la confiance des patients, et non plus des détenus, et de marquer son territoire par rapport à l'administration pénitentiaire, et surtout de marquer son indépendance. L'enjeu est de redorer, si j'ose dire, cette médecine en lui donnant un statut de service hospitalier, une offre de soins type hospitalier avec un volet de prévention et surtout assurer une soin à la sortie. Il fallait réussir le passage qu'on appelle la médecine pénitentiaire à la médecine en milieu pénitentiaire. Non pas comme une spécialité, ce n'était pas une spécialité, mais une spécificité, la valoriser, la rendre attractive et lui donner une envergure universitaire. C'est ainsi que l'enseignement de cette spécificité est maintenant assuré dans les DU, enfin les diplômes d'université, des capacités, des modules, et par la participation de cette pratique du dedans, en communiquant dans les congrès, et voire même organiser ses propres congrès. Le but étant de relier et d'ancrer cette médecine à la société. Une urgence sanitaire. Il faut le rappeler, l'épidémie du sida a été un starter, non pas initialement pour la santé des détenus, mais bien pour empêcher la contamination de notre société. Dès 1989, Thomas Harding, un spécialiste international du sida en milieu carcéral, souligne la possibilité d'établir un lien de contamination entre deux groupes auparavant disjoints. Ainsi, écrit-il, le comportement homosexuel induit par la prison constitue un pont entre le groupe au risque connu, les toxicomanes intraveineux, et les personnes susceptibles d'être ultérieurement une source d'infection par le rapport hétérosexuel. Ce phénomène de pontage peut jouer un rôle non négligeable dans la propagation de l'épidémie, il est capital d'y mettre un frein. Et donc c'est en 1989 qu'on a vu naître pour la première fois les premières équipes médicales hospitalières, donc les CISI, qui étaient en charge de la prise en charge du VIH. Donc en 1989, on a eu 8 centres qui ont pu rentrer dans les prisons, une année après 13 et 18 en 1991. Les premiers centres de dépistage anonyme et gratuit ont vu les jours dans les prisons, dans très peu de prisons, et les premiers préservatifs. Les autorités saluent, mais reconnaissent l'insuffisance des avancées. Deuxième élément, le scandale, la crise du sang contaminé, qui fera prendre conscience à la société et aux autorités du lien direct entre les détenus et la population, entre le dedans et le dehors. La santé mentale, qui fait une irruption dans ce monde clos, on assiste à un transfert de la prise en charge des patients suivis par le secteur psychiatrique de l'hôpital vers la prison. On assiste à des fermetures de lits de psychiatrie et en même temps, on crée des secteurs de psychiatrie dans les prisons. On psychiatrise dès lors la prison. Et enfin, la reconnaissance de la santé des détenus en tant que problème de santé publique. Donc aujourd'hui, après ce rapide historique d'autosatisfaction, si on peut dire, faisons le point, après 14 ans d'existence, les UXA ont 14 ans aujourd'hui, on traverse un peu une crise d'adolescence hein, dans ce qu'on fait, une crise d'identité dont il faudra réussir le passage. Les enjeux qui nous attendent, comment assurer dans un milieu privatif de liberté et répressif une équivalence de soins, une liberté de prescrire et une dispensation de soins. Comment interpréter et appliquer une continuité des soins par rapport au milieu libre? Comment garantir une continuité des soins pour des personnes qui n'avaient rien avant d'entrer en prison? Parce qu'il faut continuer à ne rien leur donner. Donc on se limitera, au moins pour aujourd'hui, sur la prise en charge des addictions, des toxicos, comme on dit, hein, comme on les appelle, en sachant que dans ce milieu, les alcooliques n'étaient pas concernés par les toxicos. La prévalence des personnes détenues présentant un problème addictif de produits psychoactifs est actuellement de 30% environ. Et si on prend les personnes qui bénéficient d'un traitement de substitution, 14 fois plus qu'à l'extérieur. En sachant que le nombre de personnes détenues est en rupture de soins et sans droits sociaux avant leur incarcération avoisine 30% dans cette pathologie. Le taux de personnes atteintes dans leur santé mentale en détention reste très élevé. Actuellement, l'estimation est de 18% d'états dépressifs majeurs, 13% d'anxiété généralisée et 4% de schizophrénie. Dès son écrou, lors de son premier contact avec l'administration, le patient revendique haut et fort sa toxicomanie. Il veut son traitement. Ainsi est marqué cet écroué comme étant un toxico et donc adressé comme tel à l'UXA. Ou bien le patient cache son addiction, n'en parle pas, afin de ne pas être stigmatisé, afin de bénéficier éventuellement de certains avantages pénitentiaires et judiciaires. Mais il va gérer tout seul son addiction, alimentant le trafic, le racket et les prises de risque. Le secret médical est mis à mal, aussi bien par le comportement aliéné de ces personnes dépendantes que par l'architecture même des lieux, ce panoptisme, si on peut l'appeler ainsi, qui permet à l'ensemble du personnel pénitentiaire de voir tout ce qui se passe. Car comment demander à l'administration une mission de surveillance, de mesures privatives de liberté, parfois accompagnées de mesures répressives, de mener des actions garantissant une bonne réinsertion à des futurs ex-détenus? La formation et l'information du personnel pénitentiaire et judiciaire restent primordiales. Faire changer les représentations et les stigmatisations des toxicos reste soumis aux divers chantages. Actuellement, on a vu des juges, des magistrats demandant aux patients que s'il arrêtait son traitement de substitution, il pourrait avoir une remise de peine. Ou s'il arrête de prendre des médicaments, il pourrait avoir du travail. Donc il faudrait passer par cette formation du personnel. Quels sont les patients qui bénéficient aujourd'hui d'un traitement et que sont devenus nos patients en rentrant qui n'avaient pas de traitement? On peut se demander aussi dans les UXA comment expliquer une telle hétérogénéité des soins. Il y a autant de systèmes de soins actuellement en France que d'UXA. Il n'y a pas une harmonisation de prise en charge au niveau des UXA. On va noter par exemple dans certains établissements une simple continuité de traitement. Voilà, un traitement prescrit à l'extérieur, je prescris le traitement à l'intérieur. Dans d'autres UXA, nous allons voir des médecins qui ne prescrivent que la méthadone ou que le Subutex. Décision. Et encore dans d'autres prisons, on va piler le Subutex ou on va le diluer pour le donner. Et enfin, aussi des prisons où on verra des sevrages systématiques. Donc nous ne pouvons que déplorer le manque de moyens, de formation des équipes soignantes à une prise en charge spécifique et à ce milieu et non équivalent à l'extérieur. Nous le savons, les prises en charge des UXA sont autant hétérogènes actuellement et parfois le reflet de ce qui se passe aussi à l'extérieur. La prise en charge d'un toxicomane dans la Creuse, dans le sud de la France ou à Lille ne sera pas pareil. Le constat, même s'il est un petit peu satisfaisant, si on voit ce tableau, entre mars 1998 et février 2004, on voit bien que la population traitée par médicaments de substitution est passée de 2% à peu près à 7%. La prévalence du sida est certes passée de 5% à 2% en 15 ans, mais je vous rassure, c'est malheureusement dû au décès de la plupart des patients et parfois le résultat des campagnes de réduction des risques, notamment le programme d'échange de seringues et des TSO, mais elle reste encore aujourd'hui importante. Les prévalences des infections par le VIH est 10 fois supérieure à l'extérieur et celle de l'hépatite C 8 fois supérieure. Une personne sur 20 actuellement incarcérée est infectée par le VIH et ou le VHC. L'arsenal thérapeutique de prévention actuel, même s'il est solide, un petit peu efficace, il reste beaucoup d'améliorations à faire. Le premier point, je vous l'ai mis, c'est les médicaments. Donc certes, les médicaments de substitution aux opiacés, méthadone, Subutex, existent en milieu carcéral, mais sans réelle prise en charge de la précarité, qui est souvent la source et l'origine de la toxicomanie. Si nous prenons le deuxième point, la proposition systématique de dépistage sérologique, c'est vrai qu'on propose systématiquement. La couverture aujourd'hui de dépistage dans les prisons est de 80%, 8 personnes sur 10 connaissent leur statut sérologique, qu'ils ont droit aussi à une radio pulmonaire, mais le dépistage en cours d'incarcération n'existe pas. C'est-à-dire qu'on le fait dès l'arrivée et il n'y en a plus après, s'il reste un an ou deux. Donc on n'a pas actuellement les moyens de savoir s'il n'y a pas de décontamination pendant l'incarcération. Les quelques fois où on fait des dépistages pendant l'incarcération, c'est souvent lorsqu'il y a soit prise de risque sexuel, soit lié à une consommation de drogue, ou parfois d'accident d'exposition au sang. On n'en découvre que 100 ou 200 par an, ce qui est très en deçà. Troisième point, l'eau de Javel. La distribution d'eau de Javel se fait dans le pactage arrivant, comme on appelle, sous forme de berlingot, sans aucune information. Donc souvent utilisée pour l'hygiène, et en aucun cas accompagnée d'une explication de réduction des risques, si doit être utilisé pour nettoyer peut-être le rasoir ou peut-être nettoyer les produits, tout ce qui va servir pour le piercing et compagnie. Donc il y a très peu d'informations sur la distribution d'eau de Javel. La distribution des préservatifs, elle commence à se généraliser, avec aussi quelques disparités, à savoir que la disposition du gel lubrifiant n'existe pas toujours, dans 50% des cas, et manque de préservatifs féminins. Le traitement des pathologies virales, si pour le VIH aujourd'hui, on va dire 100% des personnes atteintes du VIH sont traitées en prison, concernant le VHC, même s'il commence, il est à disposition dans toutes les prisons, on n'a que 5% des personnes atteintes du VHC, de l'hépatite C, qui sont traitées en prison. La vaccination contre l'hépatite B est proposée systématiquement lorsque la sérologie est négative ou lorsque le patient le demande. Le traitement post-exposition existe aussi dans la plupart des UCSA. C'est le protocole hospitalier qui est appliqué à l'UCSA, sauf que l'information aux détenus et aux surveillants est très mal faite. Et enfin, l'information et l'éducation à la santé dans la plupart des établissements. Il existe des outils d'information, aussi la réduction des risques, soit au quartier des arrivants lorsque les patients arrivent, soit en individuel. Cependant, l'efficacité de ce programme de prévention et de soins est minée par l'absence de prévention en amont que pourrait constituer un programme d'échange de seringues, mais aussi par la mise à disposition de roule tapaille. Sur un questionnaire qui a été fait au niveau des UCSA, on se rend compte que plus il y a des détenus dans une prison, et plus on a connaissance des seringues. Donc si pour l'administration pénitentiaire, il n'y a pas de drogue en prison, les services médicaux ont bien remarqué des seringues se balader. Et si on regarde la carte de la France, plus on descend vers le sud de la côte atlantique, et plus les prisons dénoncent la présence de seringues. Enfin, un dernier mot maintenant sur la préparation à la sortie. Si la loi de 1994 permet une prise en charge pendant la détention, et nous le voyons, prescription de médicaments, d'hépatite, VIH et autres de qualité et même complète, qu'en est-il à la sortie? Une personne qui était SDF ou sans droits sociaux en arrivant en détention ne sortira pas automatiquement avec un hébergement et des droits sociaux. Nous constatons donc une carence dans la prise en charge sociale garantissant une meilleure réinsertion des personnes détenues. En général, elle se résume très souvent à la remise d'une ordonnance, et encore lorsque l'UCSA est au courant de la sortie. et toutes les UXA aussi ne sont pas dotées d'un outil informatique. Le SPIP, vous connaissez le SPIP, Service pénitentiaire d'insertion et de probation, censé préparer la réinsertion des détenus, ne s'occupe pas prioritairement actuellement de la situation administrative concernant la protection sociale et s'occupe très peu de demandes de CMU. La position des SPIP, qui est le résultat d'une évolution de la politique pénale, avec un glissement des missions de réinsertion vers des missions de contrôle social, où actuellement le SPIP est devenu plus un auxiliaire de justice qu'un travailleur social, comme précédemment demandé. Voilà, juste une dernière petite diapositive pour vous.
Est-ce que ça me...